Merci, Robert. Alors, je prends confiance en vous. Dans ta position, Robert, combien les propos que je vais tenir en regard des considérations assez subtiles que Paul et Monique viennent d'exposer avec brio et talent, combien ce que je vais dire, au fond, est un exposé de vue extrêmement cavalière. Alors, je me demande de pardonner à l'avance, mais de considérer que peut être chevaleresque dans l'amour, mais que la peut être aussi cavalier, simplement. Alors, j'entends, et j'entends avec bonheur ce que Rick vient de dire, maintenir ses sentiments, se rendre capable, c'est-à-dire une position platonicienne, l'amour est une forme d'élévation. Mais en réfléchissant sur l'amour, je me suis toujours dit que c'était, comme on dit, c'est le seul gros mot que je vais prononcer, ne vous inquiétez pas. L'amour, c'est un existentiel, beaucoup plus, c'est quelque chose qui résiste beaucoup à la conceptualisation, même si, bien évidemment, il y a de grands philosophes qui parlent de l'amour, et si mes deux prédécesseurs viennent de montrer le contraire, que l'on peut effectivement conceptualiser et avoir un point de vue éthique, au fond, sur l'amour. Mais, au fond, on reposerait peut-être sur la référence à Freud, le lien entre l'amour et la sexualité, que pour ma part, je préférerais appeler érotisme ou sexualité. Enfin, en général, on dit amour et sexualité. Ce lien, il est sans cesse interrogé depuis Platon, il est interrogé aujourd'hui un peu partout, plus d'ailleurs par les psychologues peut-être que par les philosophes. Et ce lien, il n'est jamais assez clair. C'est toujours quelque chose, une réflexion que l'on remet sur le métier. Donc, au fond, ma réflexion repose sur un fait très simple. Lorsque l'on est amoureux, on est bien surpris par les émotions et les sentiments, et puis il y a un moment, peut-être, on l'est moins. Et quand on l'est moins, vient le temps de la réflexion. Et le temps de la réflexion, où nous entraîne-t-il? Alors moi, personnellement, il m'a entraîné par ma personnalité peut-être, et puis par mes tentations, mes appétits philosophiques, à considérer que dans notre culture occidentale, européenne et occidentale, il y a des grands récits. Et que ces grands récits sur l'amour peut-être nous contraignent, c'est peut-être un peu le terme peut-être mal choisi, mais en tous les cas pèse sur la manière dont nous le vivons. Quels sont ces grands récits? En avis, ils sont trois, ils ont été précédemment évoqués, le platonisme, l'amour courtois, il était fait allusion, et puis l'amour romantique, dont l'origine est en partie Rousseau, mais pas seulement. Ces trois grands récits, de quoi qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous présentent tous l'amour, finalement, comme il place tous la barre très haut, pour parler très simplement. Le modèle platonicien fait de l'amour un démon divin, hein, une impulsion vers le bien et le beau, et au fond, qui est amené peu à peu à se purifier de la sexualité. Or, je fais une toute petite parenthèse, moi je préfère parler d'érotisme. Qu'est-ce que c'est que l'érotisme? L'érotisme, c'est à mon avis ce qui nous fait humain dans l'amour. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Et de ce fait, ce grand récit qui est le platonicien, en particulier les banquets, et pas seulement, d'une certaine manière récuse la personne. Il fait de la personne à un moment qu'on a rencontré presque personne. Alors, bien sûr, Platon nous a donné la langue. La langue et les notions. Mais en même temps, ce grand récit, il est repris par l'amour courtois, bien plus tard. L'amour courtois a bien des valeurs, entre autres celle de civiliser le rapport homme-femme. Mais l'amour courtois, c'est quand même, au fond, comme le disait un grand spécialiste de la question, Adeline Bourgeon, un sentiment anxieux du bonheur qu'il repousse. L'amour courtois, c'est l'amour qui ne s'organise pas. C'est l'amour d'un chevalier pour une dame, dans un certain nombre de conditions, je ne rentre pas dans le détail, mais qui est un amour admiratif, qui place la dame sur un piédestal, qui fait de l'amant son objet, qui célèbre le cœur et non pas le corps, parmi autres les épreuves auxquelles doit se livrer le chevalier pour être aimé par sa dame, qui doit l'amant passer une nuit à côté d'elle sans la toucher. Et donc, qui en gros sublime l'amour dans la cèse. Quant à l'amour romantique, je fais un grand saut, là, évidemment. Quant à l'amour romantique, il nous présente l'amour comme une quête douloureuse, au fond jamais tout à fait réalisée. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais citer moi aussi il n'y a pas d'amour, parce que ce poème d'Aragon est en général assez mal interprété. Il est ambigu, il est ambivalent, volontairement ambivalent. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, il n'y a pas d'amour dont on se soit flétri, il n'y a pas d'amour, mais c'est notre amour à tous les deux. On nous dit souvent le dernier vers mystique.
Je ne peux pas le relire,
là, tout ça. Alors, il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur, il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, il n'y a pas d'amour dont on se soit flétri. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous les deux. Bon. On pourrait passer presque la soirée sur ce poème, mais je voudrais aller au but. C'est un poème qui signifie qu'on n'arrive jamais à la pureté amoureuse, que les modèles platoniciens romantiques sont des modèles qui nous aspirent et qui au fond nous civilisent, qui nous rendent humains, mais qui nous présente aussi un absolu sentiment quasiment impossible à atteindre. Donc il n'y a pas d'amoureux, nous ne sommes pas tout à fait heureux, le bonheur est inatteignable, mais c'est quand même notre amour à tous les deux. Et donc, à l'intérieur de ces grands récits, ou à partir de ces grands récits, qui je crois pèsent sur chacun de nous, en tous les cas, je le dis clairement, je parle à la première personne, en tant qu'homme, je me suis aperçu au fil du temps, que ces grands modèles avaient lourdement pesé, pour le bien ou pour le mal, pour le malheur ou le bonheur, en tous les cas, qu'ils avaient lourdement pesé sur la manière dont j'avais vécu, dont j'ai vécu, dont je vis, le sentiment au plus près de mon existence. Alors, ma thèse, si j'en ai une, fort cavalière, est la suivante. C'est que le mensonge, voire la trahison, un type particulier de trahison, je vais sont comme un mal contingent à la réalisation, au vécu du sentiment amoureux. Je pourrais dire autrement, avec des mots peut-être plus précis, avec Kant. Kant appelle le mensonge l'impureté. On entrait dans toute cette question qui est complexe, hein, mais je le résume. Mais si j'ai choisi d'y faire allusion, c'est tout simplement parce que je suis tombé un peu par hasard, d'ailleurs, sur une lettre de Kant qu'il écrit à une jeune femme qui désirait le connaître mieux, qui désirait sans doute avoir avec lui une relation plus proche, Maria von Herbert. Et qu'est-ce qu'il lui écrit? Il lui écrit que dans l'amour, il y a une impureté fondamentale qui limite l'ouverture du cœur, qui limite l'ouverture du cœur. Alors, on pourrait trouver ça extrêmement pessimiste, et je conscience, encore une fois, des propos cavaliers et pessimistes que je profère, mais je pense qu'il faut les regarder en face, ils ne forment pas, bien sûr, le tout de la relation. Et moi, personnellement, j'ai entendu avec beaucoup de bonheur l'idée de se maintenir, de maintenir ses sentiments. J'ai pensé aussi à la définition que donne Ricœur de la promesse, qui est magnifique et qui en même temps pose le problème. Qu'est-ce que c'est que la promesse? C'est quand on se maintient dans le temps, quoi qu'il en aille de son désir. C'est tout ce qui vient d'être dit, la question du désir dans le temps. Quoi qu'il en aille de son désir. Et à partir de là, bien sûr, on peut y avoir, et je crois que l'on doit en tant qu'humain se poser la question de maintenir ses sentiments. Mais, voilà, les grands modèles, les grands récits qui font notre ne nous disent pas forcément autre chose, non. Mais ils nous placent dans une situation extrêmement compliquée. qui fait qu'on ne peut pas faire autrement, à certains moments, que mentir, voire que trahir. Alors, je vais essayer de dire qu'est-ce qui suscite le mensonge dans la relation amoureuse et qu'est-ce qui peut susciter la trahison. À mon sens, le mensonge vient du fait que, dès le début, je veux dire dès Platon, mais ça n'était pas vrai dans la mythologie grecque, mais dès Platon, l'amour est un sentiment qui ne peut pas quitter la réciprocité. C'est d'ailleurs passionnant parce que, à l'inverse, si je puis dire, Aristote va se faire le philosophe de la réciprocité, mais non pas d'Eros, mais de la philia, de l'amitié. L'amitié est forcément réciproque et nous vivons aujourd'hui sur cet impératif. Et l'amour n'est pas réciproque. Et alors c'est extrêmement intéressant, si vous me permettez un tout petit point, mais ce ne sera pas long, en quelque sorte d'histoire de ces modèles, d'histoire de ces grands récits. Dans la mythologie grecque d'après Homère, Eros a un frère. Alors, c'est pas Eris, non, c'est Anteros. Et Anteros représente l'amour réciproque, l'Eros réciproque. D'ailleurs, il est parfois représenté, parfois, très peu de représentations, parfois représenté avec un fouet. Et pas avec un arc et des flèches, bien qu'il y ait dans la statue des confusions. Une grosse confusion, parfois l'artiste a voulu représenter Anteros, et puis on lui a demandé de mettre l'arc et des flèches. Mais donc, Anteros est représenté avec un fouet. Pourquoi ? Pour fouetter les gens qui n'aiment pas Anteros. Pour fouetter l'amant qui n'aime pas aimer. Et alors, qu'est-ce que fait Platon ? Platon change toute la généalogie. Selon Homère, Eros est fils d'Arès de Zaguerre et d'Aphrodite. Platon change la généalogie. Il en fait un fils de Pénia à la pauvreté et de Poros à la richesse. Platon est extrêmement subtil. Platon introduit une dialectique qui n'existait pas, sans doute, dans la mythologie. Alors, il est un peu embêté, Et il en parle dans le Phèdre. Et qu'est-ce qu'il fait dans Théros ? Il en fait, finalement, une image réfléchie de l'amour. Théros, c'est une image réfléchie de l'amour. Une projection, j'interprète, une projection de soi en l'autre. Tout est dans Platon, ça, on arrive à Proust, l'autre, celui qu'on aime, c'est le négatif de notre sensibilité. C'est la question de soi. Tout ça est dans Platon, et Platon, c'est vraiment une césure par rapport aux représentations qui l'ont précédé, qui sont celles de la mythologie. Donc, cette absence de réciprocité qui caractérise la représentation que l'on a de façon inconsciente de l'amour, on l'admet, en quelque sorte, qu'on peut aimer, et c'est l'amour romantique, vivant sans être aimé. Mais bien évidemment que dans le lien qui se crée, cette absence de réciprocité peut susciter le doute, peut mettre en cause la confiance, etc., etc. Il y a une très belle réflexion de Roland Barthes, que j'ai relu pour en venir, à propos de mots, justement, on pourrait parler, je t'aime. Alors, Roland Barthes dit la chose suivante, il dit « Je t'aime », c'est un performatif qu'on peut passer, mais il dit surtout, je vais trouver la citation exacte, Roland Barthes dit « Je t'aime », c'est un verbe intransitif, parce que si, à part soi, on pense à la phrase qu'on a prononcée sans que la personne soit là, est-ce que dans tous les cas, je peux dire « Je l'aime » ? Première question. Deuxième question, est-ce que je t'aime ? Ça n'est pas, au fond, une question et non pas une assertion. Est-ce que ça ne signifie pas est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que le fait que je te donne mon amour n'est pas une manière de réclamer immédiatement la réciprocité ? Et puis, en parallèle, car je suis un amateur de littérature libertine et érotique, j'ai remarqué une chose, c'est que dans la littérature libertine et érotique, on ne dit jamais « je t'aime », évidemment, croit pas, mais on dit j'aime, j'aime, j'aime. C'est-à-dire qu'on assume pleinement, effectivement, le narcissisme de l'objet aimé, le narcissisme de la chose vécue, le narcissisme de la sensation. Alors voilà, cette question de la réciprocité, à mon avis, c'est elle qui est à l'origine du mensonge. Alors, pourquoi ment-on ? On ment sans doute parce que c'est plus un réflexe de défense qu'une manière de ne pas vouloir dire la vérité. Je crois que quand on ment, lorsque se crée la relation amoureuse, lorsqu'elle est dure, c'est parce qu'on ne veut pas dire toute la vérité sur soi. Parce qu'on a peur, bien évidemment, que de ne pas être aimé en retour. Le mensonge ne met pas en cause la sincérité du sentiment. Le mensonge amoureux n'est pas le contraire de la vérité. Au fond, le mensonge, ne pas dire exactement qui on est, ne pas dire exactement ce que l'on pense, etc., pour pas que, par hasard, l'autre nous prenne pour quelqu'un d'autre ou nous prenne pour quelqu'un qu'on voudrait ne pas être. Bon, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la stratégie. Alors, j'ai relu une phrase de Jean-Luc Marion qui le dit de façon beaucoup plus éclairante que je pourrais le dire. Il dit à peu près, on ment à l'autre pour lui faire croire que je m'aime moi-même et qu'il doit en faire autant. Voilà. Donc cette phrase est absolument merveilleuse parce qu'elle résume absolument la situation. Alors, tout en vous parlant, je me dis, est-ce que cette tentation ne caractérise pas au fond toute relation avec autrui ? C'est une question qu'on peut se poser, mais à mon avis, elle est véritablement une spécificité dans l'amour, car l'amour réclame la réciprocité qui n'est pas inscrite dans les grands récits qui nous mettent. Alors, bien sûr, quand on est rassuré sur les sentiments d'autres, on finit peut-être par oublier ses craintes, mais en oubliant ses craintes, on peut peut-être aussi oublier ses promesses. Il y a là, moi je crois, dans les grands récits, une sorte d'ambivalence, pratiquement peut-être de tragédie dans la représentation du sentiment qu'il est. Maintenant, passons à la question de la trahison. Alors, cette question de la trahison, moi, je ne veux pas en parler, parce que ce serait trop long, comme une rupture du lien intime qui se fait dans la fidélité, à partir du moment où on aime plus l'autre, ou à partir du moment où peut-être on ne se maintient plus soi-même dans un sentiment, et qu'on trahit l'autre. Non, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de quelque chose de parfois peut-être plus difficile à admettre et à assumer. C'est lorsqu'on trahit l'autre tout en sachant qu'on l'aime. Alors cela peut paraître bizarre, cela peut paraître une contradiction. Je crois que ça peut arriver. Je prends deux exemples littéraires. Le premier, c'est la fin du voyage à New York, dans le voyage au bout de la nuit de Sénat. C'est un texte magnifique, alors je ne vais malheureusement pas le lire, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe juste avant. C'est ce texte dans lequel, au fond, il dit que la femme qui l'a quitté vous dit, tiens, si elle peut le lire, elle peut venir le voir, hein, je n'ai jamais changé. Je l'aime encore et toujours, donc il l'a abandonné. À ma manière, elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée. Mais je veux dire ce qui se passe après. Bardabu est à New York, en quelque sorte, cette relation avec Pauline, prostituée, lui a redonné sa qualité d'homme. Et après avoir retrouvé auprès d'elle sa qualité d'homme, eh bien, il a envie de partir. Il a envie de partir de rentrer en France, rentrer en Europe et d'entreprendre des études de médecine. Juste après ce texte, il y a Bardabu, longue ellipse narrative, Bardabu, médecin, dans la banlieue parisienne. Et voilà, donc la scène, elle l'accompagne à la gare et elle lui dit « Vous voilà déjà loin, Ferdinand. Vous faites, n'est-ce pas, Ferdinand, exactement ce que vous avez envie de faire. Voilà ce qui est important. C'est cela qui compte seulement. » Alors, le narrateur reprend, le train est entré en gare, je n'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine. Je l'ai embrassé au lit avec tout ce que j'avais encore du courage dans la carcasse. J'avais de la peine, de la vraie pour une fois. J'avais de la peine pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie. Rien que cela, le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Je vais lire un texte qui paraît plus léger, qui est en quelque sorte extrêmement ambivalent, que personne ne comprend. Blesse en grâce, tu es plus belle que le ciel et la mer. Personne ne comprend parce que tout le monde le trouve contradictoire. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami. Quand ton amant, quitte ton amant, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Quand tu aimes, il faut savoir, chanter, courir, manger, boire. Quand tu aimes, il faut partir, ne larme pas en souriant, ne te liche pas entre deux seins. Respire, marche, puis va-t'en. Au fond, la trahison, là, elle est assimilée à une sorte de nécessité. Une nécessité tragique qui permet de devenir soi. Alors, ce n'est pas tout à fait l'amour de soi contre l'amour de l'autre. C'est le refus de l'oubli de soi. C'est le refus de l'oubli de soi. La trahison amoureuse, en quelque sorte, chez Céline, chez Bardamu, elle me rappelle, vous savez, cette image du petit enfant qui casse son jouet et qui ensuite en cherche l'âme. Mais en quelque sorte, il y a été contraint. Aimer amène au fond une double aspiration paradoxale, s'unir, aimer, être dans le moment présent, vivre, tenir la promesse sans cesse renouvelée, et en même temps se séparer pour être libre d'entamer le grand voyage de la vie. Et ça, en quelque sorte, j'ai sur ces sujets réfléchi de façon peut-être plus étendue, mais pour le sujet de ce soir, ça, en quelque sorte, c'est une réponse, je crois. C'est une réponse à l'absence de réciprocité des grands récits amoureux, sur l'amour en tous les cas en Occident, et c'est une réponse c'est une manière d'incarner, en quelque sorte, le fait que l'amour soit une aspiration vers l'être. Alors, c'est une façon, non pas de se tourner vers l'autre, mais de se tourner vers soi. Il est question d'amour de soi, mais du refus aussi de l'oubli de soi. Alors pourquoi on refuse l'oubli de soi? Parce que je crois que l'oubli de soi est, au fond, dans la métaphysique chrétienne dans laquelle on vit, et que l'amour nous libère, en quelque sorte, de cette obligation. Voilà. Cela peut paraître, en quelque sorte, tout ce que je viens de dire peut paraître extrêmement pessimiste. Le fait de choisir son droit au bonheur, en contradiction avec l'amour de l'autre, ou l'amour pour l'autre, peut-être, oui. Ça peut donner lieu à des conflits moraux, certainement. Mais moi, je préfère y voir, non pas une obligation, une nécessité, mais en quelque sorte une réponse à cette phrase de Céline, vous savez, qui est restée célèbre et qui se trouve écrite juste avant les passages que j'ai évoqués. Un amour, c'est l'infini à portée des graines. Voilà. Mais comment cet homme qui écrit ça, après, écrit ce que je viens de vous lire. En fait, Céline met à mal le sentiment d'absolu, comme il met à mal bien le sentiment d'absolu et d'augmentation de soi lié à l'amour dans notre culture. Il ramène finalement ce sentiment à la portée des caniches, mais pour lui, caniches, ça n'est pas. Pour Céline, nous sommes des bêtes. Et il faut retrouver au fond la pureté de l'animal que nous sommes. Finalement, le caniche, c'est celui qui peut aimer, mais qui n'aime pas dans la transcendance, qui aime au fond dans une forme de droit au bonheur immédiat. En quelque sorte pur, en quelque sorte naïf, mais dans le sens étymologique de la naïveté, c'est-à-dire dans le sens de la grâce.